Il est l'heure de retrouver Jean-Jacques Ibos dans son émission Espace Horizon Inaccessible.
Bonjour James, bonjour chers auditeurs.
Nous avons vu le mois dernier que des astronautes passent de longues périodes dans la Station Spatiale Internationale. Quel est le record de durée ?
Les astronautes passent de plus en plus de temps dans l'espace et on a des vols de très très longue durée. L'homme s'est peu à peu habitué à l'impesanteur, passant de vols d'une journée, le russe Titov en 1961, à des séjours très longs. Gennady Padalka, en russe, est depuis 2018 le recordman de durée dans l'espace, 878 jours. Une américaine, Peggy Whitson, en est à 665 jours, dont 288 jours à bord de l'ISS pour son troisième vol. Elle aura aussi passé 20h61 minutes dans le vide spatial, au cours de 10 sorties extravéhiculaires. La plus grande durée cumulée de sorties extravéhiculaires revient au russe Anatoly Solovyev, avec 82 heures en 16 sorties. La NASA a fait un film retraçant le séjour de Scott Kelly, qui a passé un an dans la Station Spatiale Internationale, A Year in Space. Film à voir sur www.time.com/space. Mais revenons un peu sur Terre, ou plutôt dans les airs, en poursuivant l'interview de M. Bruno Bigand, ingénieur d'essai chez Airbus Avions.
Donc, je reviens à la genèse d'un prototype. Lorsque vous êtes mécanicien d'essai et on vous affecte un prototype, par exemple un A350 ou un A380, puisque sur l'A380, je me suis occupé du deuxième avion qui était l'avion dédié à la cabine. Ça, il faut que je vous précise. Aujourd'hui, si vous voulez, dans la certification des avions, on commence avec un prototype, mais le but, c'est de très rapidement avoir le CDN pour que les machines de production puissent fabriquer ces avions et les vendre sur le marché. Donc la phase de développement, elle cherche de plus en plus à être réduite à son minimum. Aujourd'hui, je vous ai dit entre 12 et 18 mois, c'est un ordre de grandeur. Mais pour pouvoir faire cela, alors que avant, les constructeurs utilisaient un prototype, c'était quand même assez aléatoire, parce qu'un prototype, c'est un avion qu'il faut savoir faire évoluer pour lui mettre des nouveaux calculateurs, de nouveaux. C'est quelque chose qui peut s'abîmer parce qu'on fait des essais assez, je ne vais pas dire destructifs, mais
très
assez
poussé.
Très poussés. Donc, ce que l'on a fait maintenant, et c'est ce que l'on fait chez Airbus, alors je ne prendrai pas position chez Dassault, mais généralement, on a un premier prototype qui est suivi par 2 voire 3 avions. Pour votre info, l'A380, il a bien fallu faire un avion. Le premier prototype a volé, mais c'était le premier d'une série de 5. Alors, c'est vrai que le premier prototype, à ma connaissance, vole toujours. Il a été complété dans sa phase de certification par un deuxième avion qui a été dédié à la cabine. Le troisième avion, il a été dédié au système, c'est-à-dire que le but, c'était de développer les commandes de vol, l'hydraulique ou le carburant. Et ensuite, on a eu un quatrième et un cinquième avion qui ont servi à faire soit des essais d'évacuation, soit des essais de transport de passagers. On ne pouvait pas mettre tous ces tests sur le même avion. En mettant tout sur le même avion, ça aurait étendu de plus en plus les tests de validation.
Ça aurait duré plusieurs dizaines de mois et c'est pas ce qu'on cherche en production.
Non, le but, c'est de faire un grand nombre d'essais, de les réussir, pour pouvoir faire des modifications. Parce que l'avion, quand il est premier avion, va faire son premier vol, il va le faire à une définition qui a été la meilleure définie par nos bureaux d'études.
À ce moment-là.
Mais au cours de la phase d'essai, alors on va chercher à ouvrir le domaine, c'est-à-dire de définir dans quel domaine l'avion va pouvoir évoluer dans les basses vitesses comme dans les hautes vitesses, dans les masses les plus faibles, voire les masses les plus fortes. Et pour cela, on utilise tous les systèmes qui sont à bord de l'avion, notamment les volets qui sont des systèmes amovibles qui sont sur les voilures, pour pouvoir réduire les vitesses et avoir une bonne aérodynamique qui nous permet de faire évoluer l'avion à basse vitesse. Mais pour pouvoir évoluer à basse vitesse, il faut des calages différents pour ces volets. Les positions de décollage, les positions d'atterrissage sont des positions de volets qui sont différentes pour différentes vitesses. Et il faut que le constructeur et le bureau d'études définissent ces calages et que les équipages d'essai fassent des séances de ce qu'on appelle des QDV, c'est-à-dire des qualités de vol, avec ces différents réglages, pour valider que les réglages des bureaux d'études, dans la réalité, correspondent bien aux attendus du bureau d'études.
Et si jamais les essais montrent que ça ne correspond pas, le bureau d'études fait des modifications qu'on installe sur cette machine et les suivantes.
Exactement.
Pour que finalement, on retrouve sur ce qui était prévu dans les plans.
Sauf que régler une position de volet, c'est pas simplement ajuster une petite vis qui décale. Souvent, ça peut amener à des modifications de structure qui demandent des réalisations de pièces qui sont longues en cycle. C'est pareil. Alors là, je vous parle de la mécanique pure, mais il y a à bord des calculateurs pour différentes fonctions. Il n'y a pas que les calculateurs de commande de vol, il y a les gestions du pétrole, de l'hydraulique, du conditionnement d'air. Tous ces calculateurs ont été calculés au plus juste et au meilleur que l'on savait faire, mais il peut s'avérer que dans la phase des essais, on montre qu'il faille un rebond. Ce qu'on appelle un rebond, c'est une évolution du logiciel par un nouveau standard. Et une évolution de standard, ça se fait pas en deux mois. Plutôt du genre de 6 mois. Et bien sûr, dans ces calculateurs de commande de vol, on met la valeur retenue pour les calages de volets.
Oui.
Donc très rapidement, vous imaginez bien que dans la première campagne d'essai, il faut vite valider ces premiers critères pour pouvoir avoir plus tard...
Bénéficier d'expérience sur les essais suivants.
Pour avoir les nouveaux calculateurs, et une fois qu'on aura les nouveaux calculateurs, refaire les essais pour valider que avec ces nouveaux standards, on a bien les bons résultats. Donc vous imaginez que c'est la course à la modification pour pouvoir tester la bonne configuration. Donc ça veut dire quoi ? C'est que nos prototypes, eh bien, ils sortent de chaîne. Mais entre le moment où ils sortent de chaîne et le moment où ils sont certifiés, leur état change
considérablement.
Je ne dis pas tous les jours, mais alors se pose souvent le problème. Un prototype, c'est fait pour voler et c'est pas fait pour être en chantier continuellement. C'est l'éternelle guerre qu'il faut mener et le palliatif de cela qu'a trouvé le constructeur d'Airbus, eh bien, c'est de dire, eh ben, j'aurais pas un avion, j'en aurais deux. Maintenant, 3, voire 4, voire 5. Puisque je vous rappelle quand même que dans la certification du 380, on a eu jusqu'à 5 avions. Alors, il est clair que les derniers avions n'ont pas eu une durée d'utilisation en tant que prototype de 12 mois. Ils ont eu peut-être 3-4 mois, enfin, parce qu'ils ont été mis là uniquement pour valider les derniers standards. Mais d'un autre côté, on ne peut pas fabriquer 5 avions au même standard, tout de suite. Parce que, après, c'est bien joli ça, mais quand vous faites une évolution de standard, ces 5 avions, ils volent tous. Et il faut qu'ils soient tous au même standard. Donc, c'est pas un jeu de calculateur.
Tiens, c'est 5.
C'est 5 jeux. Et un jeu peut présenter 2 à 3.
Oui, 5 jeux. Ouais.
Donc, dans notre métier, c'est de tester ces différentes fonctions. Et je prends par exemple l'avion cabine. L'avion cabine, il est clair qu'il sera équipé de toutes sortes de sièges, de conditionnement d'air, etc. Mais son souci, ça ne sera pas la puissance des moteurs, ça ne sera pas le freinage, ça ne sera pas les qualités de vol. Lui, il va voler, donc il va se servir de ces fonctions-là, mais à aucun moment, il va aller faire des vols de QDV ou des vols des essais de freinage. Son rôle, lui, ça sera de faire évoluer la cabine. C'est pourquoi il y a eu plusieurs avions qui ont servi au développement du programme A380.
Ça, c'est vrai, dans quasiment tous les programmes, on a toujours 3, 4 machines d'essai aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui. Mais avant, ce n'était pas le cas.
Je parle aujourd'hui chez Embraer ou chez Boeing, il y a plusieurs machines qui font.
Boeing, vous savez, entre Airbus et Boeing, les dimensions des sociétés sont tellement énormes,
gigantesques, ouais.
Qu'on a du mal à comparer Airbus et Boeing, ce dont deux types d'avionneurs, mais avec des moyens qui sont pas comparables. Si nous, Airbus, on en a choisi peut-être 5 avions, après, c'est utopique de croire qu'il en aura une dizaine. Ils n'ont pas la même politique que nous de faire des essais. Eux, généralement, ils mettent beaucoup de monde à bord sur un avion, le pilote ayant des fiches pour faire des opérations bien spécifiques et les ingénieurs pour faire des tests bien particuliers. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la France et les États-Unis ont une approche différente de faire des essais sur des avions comparables, je vais dire.
Mais si on a 5 à 380 qui volent au prototype,
oui.
Je pense que ces machines, elles ne vont pas rester prototypes tout le temps. À un moment, il y en a bien quelques-unes qui vont passer, qui vont être remises au dernier standard et vendues aux clients.
Bien sûr, bien sûr. On est là pour fabriquer des avions,
oui.
Et pas simplement pour engorger les musées aéronautiques.
Ouais. On va garder un proto, je pense.
Alors généralement, c'est pas qu'on va garder un proto, c'est que le premier proto, hormis ses calculateurs, il va peut-être être entaché, je vais pas dire d'anomalie, mais de modifications qui ne sont plus vendables. Je m'explique. Si pendant les essais de flutter ou de qualité de vol, on s'aperçoit qu'il y a des endroits de structure qui demandent à être renforcés, on sera peut-être obligé de rajouter des pièces pour renforcer cette zone et pouvoir démontrer, voilà, une fois que c'est renforcé, maintenant, ça vibre moins et c'est acceptable. Donc, la définition, ça sera avec cette pièce intégrée. Donc, sur le premier proto, elle a été rajoutée. Sur les autres qui sont fabriqués après, elle sera intégrée et elle sera pièce de série.
Directement en série. Ouais.
Et donc, il est clair que le premier proto, entre guillemets, sera difficilement vendable.
Oui,
ça, c'est la première chose au niveau de la définition. On arrive à peu près. Il faut savoir quand même que le premier avion va être sollicité. Il va être équipé, même si on sait les démonter. Sur les premiers avions, on a ce qu'on appelle les systèmes de sécurité, genre trappe de saut ou des systèmes qui ont servi à monter les sabots sur le sabot. C'est ce qui nous sert à faire les essais, par exemple, de VMU, vitesse minimum instinct, c'est-à-dire de calculer quelle sera, ou non, pas calculer, de démontrer quelle sera la vitesse minimum à laquelle on pourra décoller un avion aussi gros que le 380. Pour cela, on est obligé d'avoir des artifices ou des outillages qui nous permettent. Et ça demande des modifications de l'avion qui ont été appliquées sur l'avion 1 et pas sur les autres avions et qui sont difficilement vendables. Bon, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que aujourd'hui, on a certifié la 380. Mais demain, il y a un client qui nous dit « moi, les moteurs que vous avez choisis, ça me plaît pas. Je veux un autre type de moteur. » Donc, il va falloir que ce moteur en question soit testé par le fabricant de moteur, mais qu'ensuite, ce moteur soit avionné et soit testé.
Donc, il faut un avion d'essai.
Mais il faut bien un avion d'essai. Alors, on va dire « Mais alors, vous devez avoir un avion d'essai par famille. » Non, on n'a pas assez. C'est trop riche
c'est
pour ça.
Oui.
Mais c'est ce qui dit que on arrive quand même à conserver quelques protos, bien qu'un prototype, c'est un avion. Un avion, c'est fait pour voler. Et un avion qui ne vole pas, ça coûte très cher. Et pour quelle que soit la société.
Et ça s'abîme.
Et il faut l'entretenir. Il faut entretenir des équipes sol. Il faut entretenir la maintenance. Ça demande des sommes. Donc, à ma connaissance, pour le 380, on a toujours le prototype numéro 1. Mais les autres avions, ils ont été vendus, modifiés au mieux qu'on a pu, et vendus moins cher,
oui,
à des clients qui voulaient un avion, mais qui ne voulaient pas payer le prix d'un avion neuf qui sort tout neuf d'une usine d'assemblage.
Très bien, donc on a bien compris quel était le rôle d'un avion d'essai, à quoi ça servait, des équipages qui sont à bord,
voilà.
Quelle est leur fonction et quel est le but de ce qu'on attend de leur travail.
Oui, donc je me permets de le préciser, dans un avion d'essai, hormis le pilote qui exécute les manœuvres qui sont demandées par l'heure d'essai, je vous rappelle quand même que avant chaque vol d'essai est débuté par un briefing qui est fait à l'équipage et au personnel sol qui vont assister depuis la télémesure à notre essai, et un briefing qui décrit et qui est consigné sur ce qu'on appelle un ordre d'essai, qui est consigné sur un document qui va rester au sol, qui va décrire toutes les opérations que l'on va effectuer pendant le vol. On n'improvise pas
un essai.
Un essai, il est bâti, décrit et réalisé par un équipage qui est briefé pour savoir ce qu'il va faire. Et si jamais il a des questions à poser, c'est plus facile de le faire dans une salle de briefing avec entouré de spécialistes pour dire « Mais attendez, vous choisissez une vitesse, elle n'est pas trop faible, elle n'est pas trop forte, et s'il est là, on n'est pas trop lourd, aujourd'hui le vent, il est de temps, etc. » S'il y a des questions à poser, c'est à ce moment-là qu'on les pose. Et après, on se pose plus de questions.
On n'improvise pas quelque chose en vol.
Non, jamais aux essais en vol, on improvise. On fait un programme, et si ce qui est défini au programme, on sent aussi bien le pilote que le mécanicien, que l'ingénieur, ou que la salle d'écoute voit quelque chose qui ne va pas se passer comme ce qui est prévu au programme, chaque interlocuteur a le droit d'intervenir pour attirer l'attention du pilote qui effectue la manœuvre qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Suite à quoi, on mettra une pause, on prendra une position de sécurité, on analysera ce qui s'est passé, voilà. De savoir si ce qui s'est passé a engendré des anomalies temporaires ou irréversibles. On a peut-être simplement déformé quelque chose, cassé quelque chose, et en fonction de ça, le commandant de bord prendra la décision d'écourter ou d'annuler le vol. Parce que les conditions ont changé, tout bêtement. Aujourd'hui, on est parti pour avoir du vent de travers de 35 nœuds, on a 40 nœuds, il a fait une première approche, et il y a quelque chose qui se passe pas bien, on analyse avant de se remettre dans les conditions. On ne va pas aux limites d'un seul coup. On va aux limites...
Progressivement.
Par palier, progressivement. Par un équipage qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il doit ressentir et qui sait qu'il est aidé par une multitude d'ingénieurs qui, eux, sont assis devant des ordinateurs, je dirais pas confortablement dans leur siège, et qui voient beaucoup plus de choses que nous ne pouvons voir en vol. Et c'est tout cet ensemble-là qui fait qu'on peut arrêter un essai en cours d'exécution. Voilà.
Et c'est tous ces essais qui permettent que, quand on monte dans un avion en tant que passager, on peut être tranquille. Le pilote, lui, va respecter l'enveloppe qui a été donnée par le constructeur, qui est safe. Et qui est dans les limites de la sécurité.
Vous comprenez bien que ça soit dans un manuel de vol. Manuel de vol, je vous rappelle, c'est un document officiel qui définit le domaine d'utilisation de tel avion. C'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez décoller de telle masse cet avion. Vous pouvez décoller de telle altitude, de telle température. Il y a toutes les restrictions d'utilisation. L'exploitant doit respecter ce manuel de vol. C'est réglementaire que ça soit écrit, mais pour pouvoir définir ces limitations, il est clair qu'un constructeur n'a pas à mettre trop de restrictions. Si on met trop de restrictions, le domaine d'utilisation va être trop restreint. Si on limite à 10 nœuds de vent de travers pour être sûr que le pilote de ligne lambda n'ait jamais pas de problème, l'avion ne volera jamais. Parce que le pilote de ligne, lui, il respecte la limitation.
Si
quand il se présente sur la piste, il y a
au-delà
des limites, pour lui, il ne se pose pas de questions.
Il n'a pas le droit.
C'est remise des gains. Sinon, on va lui reprocher de ça.
Oui.
D'accord?
Si ça se passe bien, on lui reprochera. Si ça se passe mal, il aura de gros soucis.
Voilà. Donc, le but, c'est d'avoir, entre guillemets, les limites les plus ouvertes possibles. Et pour cela, il faut bien qu'il y ait des équipages d'essai qui aient testé l'avion dans ces conditions-là. Et une fois qu'on a vérifié ou validé les limites du domaine, on prendra les marges nécessaires pour que le pilote de ligne lambda ne puisse pas aller aux limites autorisées par le constructeur, même si les équipages d'essai sont allés au-delà. Donc ça veut dire même si au-delà, entre guillemets, ça peut être volable. Et ces limites-là, on les inclura dans les commandes de vol, qui sont l'endroit où on peut mettre le plus de restrictions, puisque un avion, ça vole avec des moteurs, ça roule avec des roues, ça consomme du carburant, mais c'est géré essentiellement par des calculateurs de commandes de vol. Et les calculateurs de commandes de vol sont une assistance, on va dire, informatique idéale pour aider le pilote à évoluer avec un avion qui transporte des passagers dans des conditions qui peuvent être soit normales quand il fait très beau, soit extrêmes quand les conditions se dégradent. Et il ne faut pas que, quand on a ce genre de conditions, le pilote soit pas autorisé, mais amené à aller faire des excursions dans des domaines qui peuvent être marginaux. Et ça, c'est le rôle des commandes de vol, c'est-à-dire de protéger l'avion pour l'empêcher d'aller dans ces domaines-là.
Dans des endroits où il risque de vraiment s'abîmer et mettre en péril l'avion et l'équipage.
Alors, il risque de rentrer dans une spirale, j'ose pas dire s'abîmer, parce que, vous savez, quand vous voyez les essais de destruction des avions, on peut être très confiant. Là aussi, je vous envoie sur Internet où on peut voir des essais de déformation de voilure. C'est impressionnant.
On a l'impression qu'ils vont se toucher au-dessus. Ouais.
C'est très impressionnant. Mais c'est pas généralement une seule condition extrême qui vont amener à un gros problème technique sur un avion. C'est une combinaison de plusieurs phénomènes qui vont amener une spirale qui peut mal se terminer. Mais aujourd'hui, on met un grand nombre de sécurités pour que justement ce nombre de spirales, cette spirale se réduise naturellement et que le pilote ne soit pas confronté à ce genre de situation.
Donc quand on monte dans un avion, on peut être tranquille.
Ça
a été étudié.
Vous pouvez être tranquille.
Il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'Airbus qui volent.
Oui. Tous les avions.
Airbus, Airbus, tous.
Aujourd'hui, beaucoup d'avions volent. Alors, le constructeur, il fabrique un avion au mieux pour un exploitant. Mais par derrière, il faut savoir quand même que c'est l'exploitant qui doit l'entretenir. Un mauvais entretien ou un entretien, je dirais pas bâclé, mais mal fait pour des histoires d'économie, c'est pas une bonne chose pour l'avion.
Ça met en péril l'avion.
Et on est loin de l'état de fabrication qui a été réalisé par le constructeur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que le constructeur continue de faire évoluer ses avions. Soit par des avions neufs, c'est les nouvelles versions, soit il fait évoluer des systèmes. Parce qu'il continue à faire des essais sur les pilotes automatiques, sur les systèmes de freinage. Et après, le constructeur propose des améliorations des avions. Mais si les exploitants ne veulent pas
les appliquer, acheter la modif qui va bien, et après c'est leur responsabilité.
Voilà.
Il y a les modifications sécurité, ça on n'en discute pas, elles sont imposées.
Alors celles-là, elles sont imposées par les systèmes certificateurs.
Par les certificateurs qui disent, voilà, cette modification.
Aujourd'hui, il doit admettre un système anti-collision, on a mis des systèmes d'alarme quand on se rapproche du sol, tout ça, c'est des expériences qui ont amené à faire ces systèmes-là suite à des incidents ou des accidents. Le constructeur a dit, bon, il y a eu un accident, s'il avait eu ça, ça ne serait pas passé. Le constructeur, comme sur les voitures, l'anti-blocage des systèmes de frein, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, de dérapages. Donc maintenant, on a ça de base sur nos voitures. Eh bien, le constructeur, il va faire la même chose. Il va mettre des systèmes de plus en plus performants pour que l'équipage d'un avion de ligne soit dans les meilleures conditions, quelles que soient les conditions extérieures.
Et quand il y a un accident, on a ce qu'on appelle aujourd'hui le bureau d'enquête et d'analyse qui regarde pourquoi il y a eu un accident, il cherche, et ils proposent des modifications quand on a identifié la cause. Et ensuite, ces modifications, elles sont appliquées. C'est pour ça que un accident d'avion, quand on ne sait pas pourquoi, c'est beaucoup plus embêtant que d'en identifier pourquoi. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé et on ne sait pas éventuellement corriger un défaut. Et ça, c'est grave.
Et c'est pour ça que dans notre métier d'essai en vol, on nous pousse à pousser les machines aux limites, mais hormis les problèmes de sécurité, il faut pas casser. Il faut pas casser l'avion. Parce que...
Ça
sert à rien, au contraire. Ça va être un frein énorme. À l'heure actuelle, je mets un bémol, parce qu'il est clair que tout ce qui se passe en l'air, dans un avion, c'est suivi en direct, enregistré à des cadences. Le nombre de paramètres qui sont en temps réel enregistrés au sol. Donc, on peut rejouer sur un avion d'essai moderne, d'aujourd'hui. On n'aura pas ce qui se trouve à l'intérieur des calculateurs. On n'aura pas les configurations s'il y a quelque chose qui s'est déformé. L'avion prototype est un avion qu'il faut pousser aux limites, mais qu'il ne faut pas casser. D'une part, parce que ça coûte cher et qu'il est...
Et qu'il y a du monde à bord.
Oui, bien sûr.
Mais c'est pas fait pour ça. Voilà. On casse des avions, mais en statique. Comme on vous le disait tout à l'heure, on casse en fatigue, on sait les cellules, on casse en fatigue, mais il y a des cycles qui ne sont jamais ceux qu'on utilise normalement.
Non.
Heureusement, voilà.
Oui.
On va chercher.
Les déformations qui sont faites sur les bandes fatigue, il est clair qu'on ne peut les faire que sur les bandes fatigue. Et les déformations engendrées par ces bandes fatigue, il est clair que c'est sur une cellule qui est vouée à la casse.
Oui, complètement.
À la casse.
Oui.
Et on doit montrer qu'elle se déforme sans pour cela se casser. Mais elle se déforme jusqu'aux limites de la déformation.
Bien, écoutez, c'était passionnant et ça donne envie d'aller voir un petit peu le plus près. Et si on veut voir un petit peu plus près, là, il faut rentrer dans le domaine des essais en vol. Aujourd'hui, pour illustrer, dans l'équipe Airbus avion, il y a combien d'équipages? Comme ça, vous disiez qu'il y a un équipage par avion. Il y avait combien de personnes qui avaient ces qualifications, qui étaient capables de faire des essais? Si on prend toute la gamme Airbus, 320, 330, 340... Alors,
aujourd'hui, à quelque chose près, on a, si vous vous souvenez ce que j'ai dit au début, on a des pilotes d'essai qui font de la réception. Les pilotes d'essai qui font des prototypes s'appellent pilotes d'essai expérimentaux. Donc, on fera une petite différence, sachant qu'ils sont tous pilotes d'essai, mais ils n'ont pas la même qualification. Les essais et la réception, c'est deux choses qui sont différentes. Aujourd'hui, chez Airbus, en gros, on a 25 pilotes d'essai expérimentaux pour une quinzaine de pilotes de réception. Le pilote de réception, pour votre info, peut faire de la place droite sur un avion d'essai.
La place droite, c'est la place de copilote.
C'est la place de copilote. Ça dépend aussi du type de vol d'essai qu'on va faire. Ce qu'on appelle les ouvertures de domaine,
il faut
ce qu'on appelle un équipage minimum, c'est-à-dire c'est deux pilotes d'essai, un mécanicien et un ingénieur
navigant.
Et généralement, ça peut même être associé avec des systèmes de sécurité, puisque on peut voler même sur des Airbus avec des parachutes, parce qu'il y a des avions qui sont équipés de systèmes d'évacuation d'urgence, mais sur certains prototypes pour certains essais très particuliers qui peuvent amener à une évacuation. On en monte sur les premiers avions. Aujourd'hui, à ma connaissance, j'en ai jamais testé. Deux, je n'ai pas de connaissance
qu'on ait eu
à s'en servir.
Qu'on ait évacué un avion en vol.
En vol. Donc, ça nous fait, en gros, pour Airbus, une quarantaine de pilotes expérimentaux et réception. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Pour ce qui est des ingénieurs, on a aussi une petite différence entre les ingénieurs qui sont ingénieurs d'essai, bien sûr, qui sont ce qu'on appelle catégorie A, qui sont expérimentaux et qui sont autorisés à faire des essais d'ouverture de domaine.
De les programmer, de les calculer.
Oui, puisque l'ingénieur d'essai a un rôle très important. C'est lui qui bâtit l'ordre d'essai.
Sa responsabilité est immense.
Étayée, bien sûr, avec les bureaux d'études. Oui. Il ne travaille pas tout seul. Mais c'est le bureau d'études qui a besoin d'avoir un échantillonnage de qualité de vol pour différentes vitesses. Donc, on discute des vitesses, on discute de tous les paramètres et il bâtit l'ordre d'essai. Donc, il y a en gros 23 ingénieurs classe A associés à 34 ingénieurs qu'on appelle classe B, qu'on aura surtout et qu'on retrouvera surtout sur les avions de série pour assurer la réception. Parce que pour un constructeur, c'est bien beau de faire des prototypes, mais il faut fabriquer des avions.
C'est pas la finalité absolue.
Non, il faut fabriquer des avions de série, les tester, oui, vérifier qu'ils sont bien conformes au CDN pour les présenter à un client, voler avec le client et que le client accepte
la machine.
Sa machine. Donc, en gros, ça fait 57 ingénieurs, c'est-à-dire A et B. Et associé à ça, 11 mécaniciens navigants d'essai. 11 mécaniciens, comme moi, qui prépareront les avions pour une campagne d'essai. Préparons les avions, ça veut dire quoi? C'est pas simplement de gonfler les pneus et mettre du pétrole. C'est assurer son état technique, c'est-à-dire pour faire les prochains essais commandes de vol, il nous faut des calculateurs de standard L7.3 et pas des L7.2.
Qui sont dépassés.
Il nous faut des moteurs avec la modification Tartampion. Il nous faut de l'hydraulique de telle qualité. Il nous faut... Voilà. Le rôle du mécanicien navigant, c'est de préparer son avion pour que techniquement, il marche, bien sûr, ça c'est d'une évidence, mais il est le standard, c'est-à-dire tous les calculateurs et tous les équipements qui sont à bord pour pouvoir les faire l'essai qui sera dédié. Donc ça, c'est les équipages d'essai. C'est donc l'équipage qui sert à faire... voilà. À partir de là, je n'irai pas trop dans le détail d'où viennent tous ces gens-là. Puisque, bien sûr, ces gens-là, il faut les former, il faut les qualifier. Les pilotes d'essai, essentiellement, viennent des armées. Vous savez, pour faire ce métier d'essai en vol, il est clair que la première des choses, c'est d'avoir une condition physique qui réponde à des critères très stricts.
Très sévères.
Si vous voulez vous engager dans cette branche-là, une des premières choses à faire, c'est de passer la visite médicale d'admission au personnel navigant. Parce que si vous êtes rejeté à l'admission,
c'est pas la peine d'aller plus loin.
C'est pas la peine d'aller plus loin. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je vous conseille vivement de démarrer très jeune. Très jeune, parce que c'est une préparation mentale. Il faut mettre à l'épreuve votre motivation pour pouvoir éventuellement réussir dans cette branche. Que ça soit pilote d'essai, mécanicien navigant ou ingénieur d'essai. Pour en revenir au pilote, généralement, le vivier où l'on va chercher pour faire des pilotes d'essai, c'est-à-dire où on va chercher des excellents pilotes, c'est généralement dans les armées, puisque à 26 ans, vous pouvez être au pilote, aux commandes d'un Mirage 2000 en formation. D'accord? 26 ans, c'est vraiment rien, quoi.
À 35 ans, on arrête, et là,
voilà.
On
peut avoir après, une carrière civile. Pour avoir ce label essai, il n'y a pas beaucoup d'écoles dans le monde. Il y en a une en France, à Lechner, à Istres. Il y en a une en Angleterre, à Boscombe Down. Et il y en a une aux États-Unis, Patuxent River. Il y en a une autre pour les avions civils, mais je parlerai que de ces trois principales-là. Ces trois principales écoles, d'ailleurs, quand on rentre dans nos écoles, que ce soit en France, il y a un mixage des élèves pour voir les différentes mentalités à aborder les essais en vol.
À un moment ou à un autre, on passe dans les trois.
Non.
Pas forcément.
Non, puisque ces trois écoles sont à même de délivrer le sauf-conduit, le cachet, essai à un pilote.
Mais qui est valable pour le monde entier alors?
Qui est reconnu par le monde entier. D'accord. Non. Parce qu'aujourd'hui, des pilotes d'essai, il y en a essentiellement que chez les constructeurs,
oui,
gros ou petits, mmh, ou chez les certificateurs, ou chez les militaires pour des validations de machines. Donc, il faut se présenter en tant que bon pilote, avoir un grand nombre d'heures de vol et être recruté. On ne rentre pas à l'ECNER par son propre chef. Ce sont des formations qui peuvent durer entre 9 et 10 mois grosso modo. On va vous donner des cours théoriques, on va vous faire voler sur toutes sortes d'avions, en équipage ou en solo, généralement plus en équipage qu'en solo, pour vous apprendre à tester des machines que vous ne connaissez pas. Puisque le but de la spécification, de la qualification d'essai, c'est de savoir vous adapter dans un temps relativement court à une situation pour laquelle vous n'êtes pas préparé. On considère que dans un équipage, les membres d'équipage, que ce soit le pilote, le mécanicien ou le 80, doivent savoir à 80% à quoi correspond, à quoi consiste le boulot de l'autre. Pour vous dire que...
Pour le comprendre, voilà, pour anticiper...
Je ne dis pas que les autres membres d'équipage, que ce soit le mécanicien ou l'ingénieur, sachent piloter, mais c'est de bon ton de savoir, d'avoir au moins une licence de pilote privé,
oui,
pour savoir ce que l'on fait, ce que c'est que le pilotage. Donc, ça, c'est l'origine de ces pilotes d'essai qui viennent essentiellement des forces militaires. Mais c'est le constructeur qui a besoin de pilotes d'essai qui va aller chercher dans les armées, dans telle ou telle école, dans telle ou telle... Ah oui, j'ai un ingénieur. Oui, je voudrais un ingénieur qui soit classé pour faire des essais. Je vais le prendre et je vais l'envoyer dans cette école. Et il va en ressortir essai et il sera autorisé à faire des essais.
Mais pour ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut commencer jeune, faire un brevet d'initiation aéronautique, faire du vol à voile, faire du vol moteur, et progressivement,
on ne devient pas navigant, d'une part, mais encore plus navigant d'essai si on n'est pas passionné. On peut ne pas avoir d'énormes connaissances techniques, parce que la technique, on arrive à l'apprendre. La passion, si on ne l'a pas, on a du mal à la créer. On est passionné. Et après, tout le reste découle. Mais ce n'est pas parce que vous êtes passionné, que vous avez des gros diplômes, que vous serez pilote d'essai. Il faut attendre encore d'être derrière la porte qui va s'ouvrir et qui va vous dire « J'ai besoin d'un pilote d'essai. Qui y a de disponible ?»
Bon,
ah bah tiens,
au
y
bon
a...
moment.
Voilà. Okay. Il faut être là, au bon moment, avec les bons diplômes, à avoir la bonne... Parce que... Eh bien, il n'y en a pas beaucoup et on n'en a pas besoin de beaucoup
à l'heure actuelle. Le recrutement, il doit être
excellent. Bien sûr, les anciens partent il faut des jeunes.
Vous êtes parti à la retraite et il y a bien quelqu'un qui a pris votre place.
Exactement. Et je ne voudrais pas dire qu'il y en a deux qui ont pris ma place, mais c'est un peu ça. C'est pas parce que du jour au lendemain, on a besoin d'un pilote qu'on va croire que l'on peut former quelqu'un aussi rapidement.
Ah ben non.
Aujourd'hui, Airbus a monté, Monsieur Claude Lelay, a monté une école en interne pour préparer des membres d'équipage, aussi bien des pilotes qui sont classés réception, aussi bien des ingénieurs, pour pouvoir les envoyer dans cette fameuse école, puisque ça passe quand même par cette école, mais avec un cycle un peu plus court pour avoir le fameux tampon qui lui permet de faire...
Quand on aura besoin de quelqu'un.
Voilà. Mais c'est une formation, même en interne, qui se fait pas en 2 mois.
Oui.
C'est plus 8 à 10 mois.
Oui, c'est presque une année scolaire complète.
Et c'est toujours sanctionné par cette fameuse école qui donne le souffle-conduit de cette qualification essai. C'est la différence quand on fait, que l'on fait entre un pilote d'avion et un pilote d'essai.
Bien sûr, c'est pas le même métier, les risques sont pas les mêmes.
La
responsabilité n'est pas la même.
C'est un milieu fantastique, que ce soit dans la gamme des pilotes, que ce soit dans la gamme des mécaniciens ou des ingénieurs. C'est un métier fantastique parce qu'on vous donne les moyens de réaliser des prouesses techniques, d'explorer des domaines où vous pensiez même pas pouvoir aller, pour justement rendre encore plus sûrs nos avions sur une utilisation de tous les jours.
Ben, on vous sent motivé, on sent que vous avez fait ce métier avec passion.
Oui.
Et vous l'avez beaucoup apprécié.
Oui.
Et il va être vraiment, vraiment
plus
que passionnant.
Et j'espère que ceux qui arriveront à franchir toutes ces épreuves et toutes ces étapes et qui arriveront enfin à avoir ce sauf-conduit sauront apprécier les essais qu'ils vont devoir réaliser, puisque aujourd'hui, sans faire de parallèle avec ce qui s'est passé avant, les essais que faisait mon père sur le Balzac, le Mystère 20, ou sur le Mirage 4 quand il volait à ses débuts, c'est clair que les essais en vol de cette époque ne sont pas les essais en vol que j'ai pu connaître, et ce sera sûrement pas les essais en vol
dans une génération
de demain.
Ça sera complètement différent.
Parce que aujourd'hui, l'improvisation, je vous l'ai dit, n'existe pas. On ne va pas à l'aventure. On va chercher des résultats avec méthode et avec précaution. Mais on va jusqu'au bout.
Et les machines dans lesquelles on met onde pour la première fois, elles ont déjà fait des milliers d'heures de vol en simulateur. Elles ont bien sûr un domaine de vol qui a déjà défriché.
Aujourd'hui, avec les pouvoirs technologiques que l'on a à notre possibilité, il est clair que on peut, à travers des calculateurs, qu'ils soient dans un vrai avion ou dans un simulateur, il n'y a pas une grosse différence. Disons que dans le simulateur, on va réussir à représenter à 80% ce que sera la réalité. Le vol réel va uniquement de vérifier et de valider que la réalité, elle est bien conforme à nos modèles. Et c'est une des choses aussi qui est très importante pour nous constructeurs, c'est de valider nos modèles. Parce que ces modèles vont servir à faire des simulateurs, qui ces simulateurs vont servir à former des équipages.
Oui, c'est une boucle, c'est un cercle vertueux.
Exactement.
Chaque fois,
et les mises à jour de ces calculateurs, de ces systèmes, se font pas aussi rapidement que un trait sur une feuille de papier.
Non, c'est clair.
Donc il y a du travail.
Il y a du travail.
Mais
il y a du travail. Bon, vous avez fait votre partie.
Comme disait mon ami Patrick Baudry, vivez vos rêves et vivez-les jusqu'au bout.
Exactement. Et c'est, on espère bien que le but de ces émissions, c'est de montrer que il y a du futur.
Oui.
Aujourd'hui, pour les jeunes générations qui arrivent, il y a énormément de mains sur la planche. Nos pères l'ont fait, vous en avez fait, chacun a fait progresser la science d'une certaine façon, et les jeunes, l'avenir vous est ouvert pour vous, et il y a énormément de choses à faire.
Oui, l'avenir est encore devant nous, et il y a encore beaucoup de choses à faire.
Très bien, merci pour ces messages d'avenir et d'objectifs à réaliser pour nos jeunes. Merci Monsieur Vigan, à bientôt, au revoir.
Pour mettre un peu de musique dans cette émission, je vous propose d'écouter The Sun de Lul.
Say I'm out of control. I've got a pretty weary mind. The sun of the day's already gone. I made a fire with my own home just to see if something bright. A shooting star has fallen down, and I have slightly strayed away. I gathered sparkles on the ground. Nothing to steal, nothing to deal with. I got a pretty weary mind. Between the lines, I read your name, and only now I understand. You were the sun and I was blind. A shooting star has fallen down, and I have slightly strayed away. I got that sparkle on the ground just enough to find my way. And above me a bird is singing that old song that we used to like. Yes, above me
Il n'y a pas que des professionnels de l'espace qui y séjournent. N'est-il pas possible à un non-astronaute d'y accéder ?
Le tourisme spatial est effectivement un moyen pour les non-astronautes à accéder à l'espace. La compagnie aérienne Pan American World Airways, plus connue sous le nom de Pan Am, avait créé en 1968 le club des premiers vols sur la Lune et enregistré jusqu'en 1971 93 000 adhésions. Mais à sa disparition, en 1989, elle pensait que les premières années de l'an 2000 verraient la réalisation de ce projet. Il y a eu des précurseurs sur les vols, le tourisme spatial. Quelques passagers non-astronautes dans l'ISS. Le premier fut le milliardaire américain Dennis Tito, qui ouvre la voie au tourisme spatial le 28 avril 2001, en s'offrant à 60 ans et pour 20 millions de dollars une semaine à bord de l'ISS, faisant 128 fois le tour de la Terre. Depuis, le Sud-Africain Mike Shuttleworth, peut-être un nom prédestiné, Shuttle, l'Américain Gregory Olsen, l'Américaine d'origine iranienne Anoushei Ansari, dont la famille a créé le prix X-Prize, dont nous allons reparler, Charles Simonyi, le créateur de Word et d'Excel, Richard Garriott et le Canadien Guy la Liberté, le créateur du Cirque du Soleil, ont pu s'offrir ce rêve. Mais ces riches excentriques ne se considèrent pas comme des touristes. Ils ont utilisé les mêmes moyens que les astronautes et cosmonautes dont ils ont partagé les entraînements. Et ils ont suivi un entraînement assez proche de celui de leurs compagnons de vol. Les Russes ont proposé, dès 2019, des séjours à bord de l'ISS, avec sortie extravéhiculaire, au tarif de 100 millions de dollars. La NASA, quant à elle, a annoncé, en juin 2019, la mise en place de deux missions vers l'ISS, au prix de 35 000 dollars par nuit, mais sans transport. Mais il n'est pas obligé d'aller dans l'ISS à 400 km d'altitude pour bénéficier de la vue sur la Terre. Les vols suborbitaux, dont le but n'est pas de mettre des touristes pendant de longues périodes en orbite, mais de donner à un nombre de plus en plus grand de personnes assez riches pour s'ouvrir cette sensation, la possibilité d'accéder à l'espace intersidéral, soit au-delà de 100 km d'altitude, pour quelques minutes en apesanteur, en découvrant la Terre et les cieux sous un angle inhabituel. Mais pour ce faire, il faut que les techniciens développent des engins n'imposant pas des accélérations de plusieurs G aux occupants de ces véhicules. Trois problématiques se posent aux concepteurs de ces nouveaux vaisseaux. Les contraintes mécaniques du vol orbital, les limites physiologiques des passagers et la couverture de risques et l'engagement de responsabilité des opérateurs. De nombreux projets ont vu le jour depuis, motivés par la création d'un prix de 10 millions de dollars, l'Ansari X-Prize, dont on vient de parler, offert à toute société capable de mettre trois personnes au seuil de l'espace, 60 km d'altitude, de les ramener sur Terre saines et sauves, et de faire repartir le vaisseau dans les 15 jours. Le premier à répondre à ce défi est Burt Rutan, avec un engin hybride, le Spaceship One, composé de deux éléments. Un avion porteur, le White Knight, un chevalier blanc, amenant à 16 000 mètres l'engin spatial, et un avion fusée en grimpant avec ses trois passagers à 100 km et après 20 minutes en pesanteur, revenant se poser après 2h30 de descente. Le premier vol de cet engin eut lieu le 4 octobre 2004, à quelques mois de la butée fixée pour remporter le prix. Richard Branson, le PDG de Virgin, a créé Virgin Galactic afin de commercialiser le projet de Burt Rutan. Son vaisseau, après de profondes modifications, est devenu le Virgin Spaceship One de la Spaceship Company, capable de transporter 6 passagers et un pilote pour un prix entre 200 et 250 000 dollars par personne. Décollant d'une piste sous l'avion porteur quadrimoteur bipoutre White Knight 2, il emportera ses passagers à la frontière de l'espace. Ceux-ci seront installés dans Spaceship 2, accroché au milieu de l'aile de l'avion, qui sera propulsé à 50 km d'altitude de Mach 3 par le moteur fusée, puis finira en vol balistique, la montée à 100 km, pour un vol de 90 minutes, offrant 5 minutes d'impesanteur à ses passagers avant le retour en vol plané. En 2017, 600 clients avaient réservé une place auprès de Virgin Galactic, qui opérera ses engins suborbitaux. Mais ils attendent toujours le départ, ces passagers, car le prototype nommé VSS Enterprise a été détruit le 26 juillet 2014 dans un accident entraînant la mort de son pilote. Son successeur, VSS Unity, largué à 14 000 mètres par son porteur White Knight 2 VSS Heavy, a volé à Mach 1,87 à 27 000 mètres d'altitude en avril 2018, puis s'est posé sur l'aéroport de Mojave. Puis, lors du deuxième essai, VSS Unity est monté à 35 km et atteint pratiquement Mach 2 en mai 2018. Au cours du troisième essai, il a atteint 52 km, emmenant ses deux pilotes, plus un mannequin, Annie, à la frontière de l'espace. Au quatrième vol propulsé, le 13 décembre, il a atteint 83 km d'altitude et Mach 2, 9. Cette altitude de 50 miles est considérée par l'US Air Force comme la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace, même si pour la Fédération Astronautique Internationale, la frontière a été fixée à 100 km, ce qu'on appelle la frontière de Kármán. Virgin Galactic espère faire valider cette valeur de 80 km comme la frontière officielle, lui permettant de remplir dès maintenant ses obligations vis-à-vis de ses clients, là où elle s'est engagée à les emporter. Suite au deuxième vol réussi, en février 2019, un fonds d'investissement a mis $80 millions dans Virgin Galactic, lui donnant les moyens de préparer les premiers vols commerciaux à partir du Spaceport America à Mojave, en Californie. 16 vols paraboliques étant programmés pour 2020. 5 exemplaires du vaisseau Spaceship 2 sont prévus à terme, un seul ayant volé à fin 2019. Et depuis ce vol réussi de février 2019, 3000 autres demandes ont été enregistrées par Virgin Galactic. Mais Virgin Galactic n'est pas le seul sur ce créneau. Airbus, Blue Origin et X-Cord sont aussi sur la ligne de départ. Astrium, du groupe Airbus Defence and Space, a présenté au Salon du Bourget 2007 son Space Plane, emportant 4 passagers et un pilote. De la forme d'un avion d'affaires, il volerait comme un avion. À 12 000 mètres, il se caborerait comme une fusée et atteindrait en 90 secondes 60 km d'altitude. Puis sur sa lancée, arriverait à la frontière du vol suborbital. Mais à ce jour, aucune date de réalisation n'a encore été annoncée par le constructeur et on ne sait pas où en est ce projet. Société X-Corps, présente, créée en 1999 en Californie, prévoyait d'emmener des touristes au-delà de 100 km pour $95 000 à bord d'un petit avion biplace, le Lynx. 175 tickets avaient été vendus, mais cette société a déposé le bilan en novembre 2017, les investisseurs n'ayant pas apporté assez de capitaux pour réaliser cet appareil. Le concurrent le plus sérieux aujourd'hui est Blue Origin. Le milliardaire Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, a développé avec sa société Blue Origin le lanceur New Shepard, un petit lanceur mono-étage, réutilisable, qui emportera une capsule avec 6 passagers et se posera sous parachute. Le fusée et la capsule étant réutilisables. Le premier vol a eu lieu le 29 avril 2015 depuis sa base de Corn Ranch au Texas, mais la tentative de récupération de la capsule avait échoué. Depuis, Blue Origin a corrigé les erreurs et a engrangé le succès. En novembre 2015, il a été le premier à se faire reposer sans dégâts un étage venant d'être lancé. Et le 22 janvier 2016, cet étage a été le premier étage réutilisé. En avril 2016, le lanceur a embarqué la cabine RSS Jules Verne, RSS pour Reusable Spaceship, vaisseau spatial réutilisable, le lanceur et sa cabine étant récupérés au sol, avec succès. Le système de séparation de la cabine et du lanceur est testé en juin 2016. Une nouvelle cabine équipée de 6 hublots, configuration prévue pour une exploitation commerciale, le RSS HG Wells, est essayé le 12 décembre 2017. Un mannequin Skywalker, hommage au heureux de Star Wars, est le passager de cette cabine. Deux autres vols d'essai, emportant en plus de Skywalker des expériences commerciales, sont réalisés en avril et juillet 2018. Le troisième vol emportant Skywalker à 107 km d'altitude. Et un quatrième vol, en janvier 2019, emportait des expériences scientifiques. Un cinquième vol a eu lieu en mai 2019. Le premier vol avec passagers était prévu fin 2018, repoussé à fin 2019, comme les vols commerciaux prévus pour la fin de l'année. Mais on est en 2020 et à cette date, les vols commerciaux n'ont pas débuté. Le but de Blue Origin est de proposer des vols touristiques suborbitaux à prix compris entre 200 et 300 000 dollars. Le futur vaisseau s'appellera New Glenn, propulsé par 7 moteurs, soit plus que la Falcon Heavy d'Elon Musk, avec la capacité de mettre mise à poste de satellites ou de voiles habitées. Et une version plus puissante, New Armstrong, sera prévue ultérieurement avec la possibilité de mettre un homme sur la Lune. Autre initiative, beaucoup moins haut, l'avion solaire Solar Stratos de Solaris, qui emporterait des passagers à 20 km d'altitude, trois fois celle des avions commerciaux tout de même, donnant une vue assez proche de celle de l'espace pour un prix d'environ 50 000 dollars. D'autres projets mettraient en œuvre des cabines accrochées à de gigantesques ballons stratosphériques montant à 32 ou 36 km, le retour se faisant sous parachute. Et un investisseur américain, Dylan Taylor, projette de faire vivre l'expérience à 10 000 personnes grâce à son organisation Space for Humanity. Il a déjà investi 10 millions de dollars dans cette aventure. Et au Nouveau-Mexique, le gouvernement local a investi 220 millions de dollars pour créer Spaceport America, pour accueillir le départ des vols suborbitaux. Virgin Galactic y a installé des bureaux en attendant les premiers vols commerciaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut cette fois-ci, à la hauteur de l'ISS, un milliardaire américain, Robert Bigelow, un magnat d'immobilier, développe un concept de station spatiale gonflable, destinée soit à être des stations spatiales pour des astronautes, soit des hôtels en orbite terrestre ou en orbite lunaire, ou de modules d'habitation sur la Lune. Ce type de module gonflable a été installé avec succès sur l'ISS en avril 2016. Lors de la prochaine émission, nous parlerons des sondes interplanétaires, des concurrents privés et de diverses façons d'utiliser l'espace. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans un mois, le jeudi 13 février 2020, à la même heure. D'ici là, si vous avez des questions relatives au contenu de cette émission, vous pouvez les envoyer à Espace Horizon Inaccessible sur le compte Facebook de Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous y trouverez aussi toutes les références des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission ainsi que les précédentes. Cette émission sera disponible sur le site de la radio fréquencemistral.com et sera rediffusée le mercredi 29 janvier à 15h. Merci à James pour la technique, à François et à son équipe pour leur accueil. Je vous souhaite une très belle fin de journée.